Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Une émission par Nadia Lichtig. Nous allons parler aujourd'hui de l'exposition Art-Littérature qui a lieu au MOCO Montpellier Contemporain entre mars et mai 2024. Numa Bursin, le directeur du MOCO, souhaite explorer avec cette exposition les liens entre les artistes des mots et celles et ceux des formes. Cette exposition débute par une introduction historique sur le sujet de la critique d'art de Diderot, Beauvoir, en passant par Baudelaire, Claudel, Malraux, Valéry ou encore Francis Ponge. L'exposition ne se veut cependant pas un survol de l'histoire, de la littérature et des arts. 5 autrices et auteurs ont été invités à concevoir un projet particulier pour révéler leur lien avec la création contemporaine. Il s'agit de Daniel Rondeau, Marilyn Desboil, Christine Angot, Jean-Baptiste Delamo et Yakuta Alikavazovic. Écoutons maintenant Numa Bursin parler de l'exposition.
Grammaire fantôme.
Donc, tout d'abord, Numa, merci beaucoup de nous accueillir ici dans ton bureau.
Absolument, merci Nadia.
Donc là, aujourd'hui, je suis là pour parler des arts et littérature. C'est une exposition qui a eu lieu à la fois à la Panacée, au MOCO Panacée et au MOCO. Et elle vient de fermer ses portes. C'était le 19 mai. Elle était pas mal appréciée, j'ai l'impression, par le public montpelliérain. J'ai eu pas mal de retours de toutes sortes de personnes. Et là, aujourd'hui, j'avais envie d'avoir un petit tour d'état part. Comment cette exposition s'est faite? Quelle en est la genèse?
Écoute, oui, déjà, il y a eu beaucoup de monde. Notamment, on a été très heureux pour les dernières journées qui correspondaient avec la nuit des musées, avec la gratuité d'entrée au MOCO. Et on a vu qu'il y avait un public très nombreux, plus nombreux que pour les autres jours de gratuité qu'on peut avoir, qui est venu. Et ça revient un peu à ta question parce que il y a, je crois, une passion française pour la littérature. Je ne sais pas s'il y a une passion française pour l'art, ça peut se discuter un peu plus, mais pour la littérature, c'est sûr. Et c'est vrai qu'en plus, il y a un lien très fort, extraordinaire, historique, tu parlais d'histoire, un lien historique, un lien dans le temps, qui s'est créé dans notre pays entre l'art et la littérature. C'est un lien très particulier. Il a engendré, à travers notamment la question de la critique d'art, il a engendré une vraie branche de la littérature. On peut considérer que pendant 200 ans, la critique d'art, oui, a été une catégorie littéraire à laquelle se sont prêtés parmi nos plus grands écrivains, notamment Diderot, qui introduit un petit peu ça, en quelque sorte. Lui, il parlait pour un critique, il disait être critique d'art, c'est dépecer l'hippogriffe. Une jolie formule. Et en fait, il est au départ, c'est Grimm qui lui demande, pour une gazette, en fait, de décrire le salon à Paris, dans le Louvre à Paris. Et avec des descriptions qui doivent être précises, puisque les aristocrates de l'Europe entière devaient acheter en quelque sorte les tableaux à partir de ces descriptions. Évidemment, ils n'avaient pas de photos, ils n'avaient pas de gravures, donc le but était d'acheter ces tableaux. Et donc, il va décrire ces tableaux avec beaucoup de poésie, comme un poète littérateur. et ça va inventer la critique d'art en France. Et ensuite, on va avoir très vite Alfred de Musset, Stendhal, et puis évidemment Baudelaire, qui va être sans doute la grande référence française, qui va inventer cette forme de critique d'art qui finalement a perduré très longtemps en France, qui est plutôt par touche, c'est-à-dire en allant parler de différents artistes comme ça les uns après les autres, et non pas à l'anglo-saxonne en construisant une pensée monolithique. Voilà, ça c'est je dirais l'influence de Baudelaire. Et puis après, évidemment, Zola, Huysmans, les surréalistes, Simone de Beauvoir, j'en passe de nombreux. On avait rendu hommage à certaines de ces personnalités un petit peu dans la première partie de l'exposition. Mais je dirais que voilà, on a au départ ce lien intrinsèque extrêmement fort qui existe, qui est créé entre l'art et la littérature. Et aujourd'hui, on voulait montrer qu'il existe encore, qu'il est présent. Tu le sais aussi bien que moi. Souvent, les galeries, dans les catalogues, font appel à des écrivains. Bon, donc ça existe toujours. Mais c'est quand même moins visible du grand public. C'est quand même, j'allais dire, c'est moins consubstantiel que ça l'était autrefois.
Est-ce que ça va même plus loin ? On peut penser à Ut pictura poesis.
Je dis Ut pictura poesis, c'est la phrase d'Horace. Et c'est vrai que c'est d'ailleurs, Diderot dit lui-même que c'est sa première source d'inspiration, c'est cette phrase. Et il dit, voilà, il en est de la poésie comme de la peinture, c'est-à-dire créer des images. Voilà, bon. Et en fait, ce qui est intéressant dans son cas à lui, c'est que quand il se place comme critique d'art, il commence par, en effet, critiquer par exemple une œuvre, dire tous les défauts qu'elle a, et puis très vite, dans un paradoxe qu'il affectionnait, tout de suite il revient en disant « oui, mais qui suis-je pour critiquer ?» etc., etc. Donc chez lui, il y a toujours cette forme de jeu. Pourquoi ? Parce que lui-même se voit comme un artiste. Alors un artiste avec une mode d'expression différent, pas des pinceaux, bien sûr, avec sa plume, mais il se voit comme un artiste. Et d'ailleurs, quand on réfléchit un peu, là où c'est quand même particulièrement vrai, c'est qu'il faut imaginer à l'époque qu'il n'avait pas, bien sûr, de photographie ou de... Donc, en fait, comment pouvait-il retranscrire les toiles qu'il venait de voir ? Il fallait qu'il prenne des notes sur place et qu'ensuite, il utilise sa mémoire une fois rentré à son bureau. Donc c'était, il y avait en effet, bien sûr, on le voit dans le texte, il y avait un effort de recréation qui était en lui-même artistique. Donc oui, je pense que tu as raison là-dessus. C'est vraiment, c'est pas juste les uns qui commentent les autres. Hein, c'est quelque chose de très imbriqué. D'ailleurs, on peut même dire que souvent dans leur vie familiale, ils vont se marier, ils vont etc. Paul Valéry, il y a eu des liens familiaux très forts avec. Les impressionnistes, enfin les familles d'impressionnistes, voilà, donc il y a quelque chose de ce registre-là qui se joue, et il y a même parfois l'art qui contamine ou intègre ou modifie la littérature. C'est-à-dire que par exemple, on voit bien chez Baudelaire que la figure de Goya, par exemple, est une figure qu'il décrit dans des textes critiques classiques, mais que Goya lui-même apparaît dans les phares, par exemple, c'est-à-dire dans la poésie de Baudelaire, apparaît dans les fleurs du mal. Donc, c'est une interpénétration.
Comment ça s'est fait en ce qui concerne les écrivains contemporains ? Comment ils étaient choisis ? C'était des intuitions, des lectures de ta part ?
Est-ce que c'était aussi une prise de risque ? Des invités, des écrivains qui après proposent peut-être des artistes qui te parlent pas.
Oui, non, mais là tu as tout à fait raison. Mais c'était comme je te disais, c'était étant donné que le message de l'exposition était finalement quasiment aussi important que son contenu, en quelque sorte j'exagère, mais bon, disons qu'il y avait une idée forte à faire passer, il fallait prendre ce risque. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi qu'il y avait un risque énorme parce que je pensais au départ que, naïvement, que, en fait, les écrivains allaient choisir, voilà, j'aime tel artiste, me donner une liste de 4-5 artistes, que nous allions aller chercher des œuvres de ces artistes et qu'on allait composer avec eux une scénographie, etc., qui parlerait de leur travail ou de leur pensée. Voilà. Et donc moi, je pensais un petit peu ça. Et c'est pas du tout ça qui s'est passé. C'est-à-dire que chacun et chacune sont arrivés avec leurs propres idées, leurs propres moyens, leurs propres obsessions, d'ailleurs, leurs obsessions. Et on s'est retrouvé par exemple avec, si je cite le premier, Daniel Rondeau, par exemple, avec une monographie d'Arroyo, qui était quelque chose que je n'avais pas du tout prévu. Mais Daniel Rondeau nous dit, voilà, moi j'ai une amitié courte, mais extrêmement intense avec Arroyo, et c'est là-dessus que j'aimerais travailler pour parler oui, de cette amitié, pour parler de ce qu'on a vécu ensemble, de nos discussions, de nos désaccords, de nos points communs, du fait que finalement nous sommes un peu des Européens sur la même longueur d'onde. Enfin, il y avait toute cette réflexion qui était passionnante. Et donc, quand Daniel Rondeau vous dit ça, bon, ben voilà, on part là-dessus. Mais c'est vrai que c'était pas du tout ce qu'on avait prévu. Moi, j'avais pas du tout prévu ça. Je pensais que voilà, on se retrouverait sur des expositions différentes. Alors, par exemple, Christine Angot, elle a fait une œuvre qui était extrêmement inattendue, mais elle a fait elle-même. Elle a créé elle-même une œuvre d'art. Parlant d'art contemporain, en fait, elle crée une œuvre d'art. Donc, en quelque sorte, elle devient artiste ou elle se place dans la peau de l'artiste. Ce qui, finalement, n'est pas si nouveau que ça. Victor Hugo ou Jean Cocteau, à la fois écrivaient et puis faisaient des œuvres. Donc, voilà. Donc là, avec Christine Angot, on est un peu dans le même cas. Marilyn Desbiol, c'est intéressant aussi, parce que Marilyn Desbiol, elle explore son lien intime avec l'art, qui passe avec le fait qu'elle est la compagne de Bernard Pagès. Donc là, c'est le lien familial qui est exploré. Alors, dans le cas de Yakuta, Alika Vazovic, là, on a été sur quelque chose, finalement, qui était plus ce à quoi je m'attendais, c'est-à-dire, en effet, avec un choix d'artiste qui interrogeait un petit peu le crépuscule et la propre idée qu'elle se faisait de l'art contemporain, comme une exploration interne aussi. Et Jean-Baptiste Delamo, qui était la dernière proposition, était extrêmement singulière, puisque ça fait quelque temps qu'il travaille sur la notion de mort et de cadavre. Et donc, la dernière partie de l'exposition, en fait, était des œuvres qui répondaient à sa propre obsession et à son propre travail. Un travail qu'il fait à la morgue, avec, j'allais dire, la mort, mais dans son côté charnel, le plus immédiat, le plus frontal qu'on peut avoir vis-à-vis de la mort. Mais tu sais, ce que je me suis dit, ce qui m'a le plus intéressé dans cette partie de l'exposition, qui était très dur, hein, qui, je ne vais pas cacher, que beaucoup de gens ont eu du mal, et que voilà. Mais moi, ce qui m'a passionné dedans, au-delà de tout ce dont on vient de parler, c'est aussi ça m'a questionné aussi sur mon métier, en quelque sorte. Parce que moi, commissaire d'exposition, je n'aurais jamais fait une exposition pareille. Jamais. Je sais que j'aurais nuancé ça, j'aurais mis des œuvres plus symboliques, en quelque sorte, qui symbolisaient la mort, mais différemment. Je n'aurais pas été aussi cru. Et je pense qu'aucun commissaire d'expo n'aurait été aussi cru. Et tout commissaire d'expo aurait laissé des portes de sortie. Autrement dit, c'est une exposition qui n'aurait pas pu être faite par des gens qui sont des professionnels dont le métier est de créer des expositions. Donc c'était très intéressant parce que c'était une exposition comme on ne peut pas la voir ailleurs. Voilà. Elle avait ce caractère comme ça, frontal. Et moi, c'est ce qui m'a plu, tout en sachant que c'est évidemment pas du tout ce que j'aurais fait. Et donc ça me questionnait aussi sur moi-même.
C'est très intéressant ce que tu dis là, parce que ça veut dire que là, il y a une catégorie, une nouvelle catégorie qui a été créée du commissariat qui, effectivement, ne travaille pas avec les outils.
C'est ça. C'est-à-dire quelqu'un qui ne travaille pas avec nos outils, aussi quelqu'un qui n'a pas nos a priori. C'est-à-dire que, finalement, moi, dès que je vais monter une exposition, sans même le conscientiser, j'ai en tête quelle va être, par exemple, la réaction du public. Sans même y réfléchir. Dans mon choix d'œuvre, c'est quelque chose qui va intervenir immédiatement, sans même que je sois capable de le théoriser. C'est tout de suite, comme ça, immédiat. Jean-Baptiste Delamo, qui est du public ou pas du public, pardonne-moi l'expression, il n'en a rien à foutre. Donc, tu vois ce que je veux dire, c'est pas son problème, lui, c'est pas son problème, il est dans la construction de quelque chose. Donc, si tu veux, ça crée un rapport qui est très différent à l'œuvre et à ce qu'on va montrer.
Et d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est comment tu les as abordés. Parce qu'on aurait pu aussi se dire d'office, c'est des artistes, peu importe le médium. Donc j'ai fait une expo avec des artistes et leur choix, alors que tu leur as donné le rôle de commissaire.
Oui, oui, bah vraiment, le but, c'était qu'ils s'impliquent aussi et que, voilà, ils nous montrent leur réflexion, leur intérêt, leur curiosité, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une exposition, si on voulait, on referait la même en reprenant cinq autres écrivains, et il n'y aurait jamais, en fait, la même chose. Donc ça, c'est très intéressant, et j'espère que ça va déclencher des envies ailleurs, en faisant des expos différentes sur ce sujet, parce qu'à mon avis, c'est un sujet immense, très vaste, et qui est, à mon sens, fondamental pour l'art contemporain. On a besoin de ce regard littéraire.
Et on pourrait s'imaginer aussi qu'il y a à l'envers des expositions où des artistes invitent des lectures, ce qu'on fait aussi, mais peut-être pas de cette dimension.
Oui, mais ce qu'on pourrait imaginer aussi, c'est que les artistes spontanément fassent davantage appel aux écrivains, par exemple, pour rédiger leurs textes. Ils le font, je ne vais pas dire que ça ne se fait pas, mais il y a moins ce caractère exceptionnel, exceptionnel, dans le sens un peu systématique plutôt, qu'il y avait à l'époque, et qui a créé des grands chefs-d'œuvre de la littérature, et dont je pense aussi que ça a nourri les créations plastiques à côté. Donc c'est vrai que ce lien, on aimerait le retrouver.
Et est-ce qu'il y aura une suite ?
Omoko, je ne sais pas. On verra. Pour l'instant, en tout cas, elle n'est pas prévue. Ce qui est sûr, c'est que là, si je me mets à parler à titre personnel, cette question du lien littérature-art, et encore plus spécifiquement de la critique d'art, c'est un de mes grands sujets. Et c'est sûr que le jour où je ne travaillerai plus au MOCO, c'est une des questions qui m'occupera. Voilà, parce que c'est pour moi une des choses les plus importantes.
Merci beaucoup, Nima.
Avec plaisir, Nadia. Merci.
Cet entretien avec Nima Ambersin, j'ai envie de le faire suivre d'un texte du catalogue Art et Littérature. J'ouvre ce catalogue au hasard et je tombe sur l'entretien avec Christine Angot, avec Vincent Honoré, co-curateur de l'exposition, aujourd'hui décédé. Vincent Honoré pose quelques questions à Christine Angot. Et elle y répond. Suivent ensuite quelques images au grand format de l'installation qu'elle a proposée pour l'exposition et qui s'est trouvée au sous-sol du MOCO. Et lorsqu'on entrait, la première chose qu'on pouvait lire, en rouge, sur un cube au milieu de la pièce, c'était « Dressing ». Puis, une nuit, je me réveille. Je suis dans ma chambre, allongée dans mon lit. Et tout d'un coup, je me dis, ce qui serait génial, ce serait d'exposer mon dressing. Il faudrait que je demande demain à Patrick ce qu'il en pense et s'il serait d'accord pour le faire avec moi. C'est venu comme ça. j'avais parlé quelques mois plus tôt en analyse de ce que représentaient les vêtements de ma vie, le plaisir que ça représentait toute mon enfance, et puis après comment ce plaisir a été gâché, piétiné par la rencontre avec mon père, par l'inceste. Le vêtement avait cessé d'être un plaisir et pouvait être quelque chose qui vous trahissait. Vincent Honoré, le commissaire de l'exposition, a accepté. Ça semblait lui plaire. Un jour, dans la cour du musée, il m'a montré des photos d'œuvres liées aux vêtements. Puis, il y a quelques mois, il s'est suicidé. Il m'a montré notamment cette photo. Et là, on voit un homme déguisé, on voit une jupe rouge. Je vais lire maintenant l'entretien que Christine Angot a fait avec Vincent Honoré. Qu'a signifié pour vous de vous voir confier une exposition et quel a été le champ de vos réflexions? J'ai commencé à réfléchir, puis ma réflexion s'est arrêtée. Elle a été remplacée par un désir, une sorte d'excitation, d'envie, de joie. Construire mon dressing avec Patrick Bouchain. Le plaisir du vêtement, l'angoisse du vêtement aussi. Et la joie de travailler, de faire quelque chose avec lui. Quand je travaille, quoi que je fasse, il faut que quelque chose stoppe ma réflexion à un moment pour faire place à une sorte de croyance. Tiens, faire ça. La proposition du MOCO, art et littérature, devient architecture et littérature. Et au sein de la littérature, la chose la plus triviale possible, les vêtements. Considérez-vous que cette exposition s'inscrive dans votre démarche littéraire? Oui, ça accompagne. Ça n'a pas de sens s'il n'y a pas les livres et ce qu'ils disent. De la même façon, la démarche d'architecte de Patrick Bouchain, il n'y a rien sans l'architecture, bien qu'elle soit réduite à quelques cloisons. La scénographie créée par Patrick Bouchain est la reproduction de la chambre qu'il a dessinée dans votre appartement. Mais elle est si schématique. Les vêtements sont ceux ou les marques que vous portez, mais ils ne sont pas les vôtres. L'exposition inclut un de vos portraits, mais ce n'est pas l'original. Quelle est la part autobiographique, celle de la fiction de cette exposition? Qu'expose-t-on? On expose un sentiment mêlé, la joie, la déception, la survie, quelque chose comme ça. L'espace où quelqu'un dort, ce n'est pas rien, où quelqu'un s'habille le matin. La part autobiographique et la part fictionnelle s'épaulent. On n'expose rien. On approche, on rapproche, on met en présence. Une chambre, un dressing, quelques phrases. La photo en noir et blanc d'une petite fille avec sa poupée dans les bras. Patrick m'a dit à propos de cette chambre, la chambre réelle. Jamais on n'est dit que l'architecture est faite pour l'inconscient. Tu m'as dit, j'ai beaucoup de vêtements et je ne dors pas. Comment s'est déployé ce projet avec Patrick Bouchain? De la simplicité, de l'évidence. Puis, il y a eu ce jour de novembre où vous vous êtes suicidé. Vous faites le choix d'y présenter aucune œuvre d'art, de ne pas en être commissaire, mais d'être autrice ou co-autrice d'une installation incluant des extraits de textes que vous lisez. Pourquoi ce choix d'une telle épuration de l'espace? Il n'y a pas de pourquoi, c'est le résultat d'une logique, d'une réduction à des choses assez triviales, et d'essayer de les faire parler. S'il y avait pu y avoir une œuvre d'art, il aurait fallu que ce soit le soulier de Van Gogh. L'espace créé, l'installation, s'agit-il d'une œuvre? Ça aurait été à vous de me le dire, si vous étiez encore là. Que signifie ce portrait de vous, enfant, qui serait la seule image de l'exposition? C'est elle qui dort dans ce lit. C'est elle qui choisit les vêtements le matin, c'est elle qui les range dans les boîtes et sur le cintre.
Grammaire fantôme.
On se retrouve la semaine prochaine avec notre nouvel invité.
Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Une émission par Nadia Lichtig.